pierdere coronia partidei. Delgado acolo este
Lettre romande avec Julien Sansonnance.
Bienvenue dans Lettres romandes, le podcast consacré à la littérature sous toutes ses formes, en Suisse romande et ailleurs. Aujourd'hui, nous recevons l'écrivain Jérôme Mézeau pour son roman « Au Val des loups ». Alors Jérôme Mézeau, bonjour, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les personnes qui nous écoutent ?
Oui. Je suis maintenant je suis écrivain depuis une quinzaine d'années. J'ai publié une dizaine de récits et de romans aux éditions Zoé, aux éditions d'en bas. Et mon métier professionnel, c'est d'être enseignant. Je suis enseignant à l'université de Lausanne. Et comme je travaille à temps partiel, j'essaie de consacrer un peu de temps à l'écriture. Donc j'ai en quelque sorte un double métier que j'essaie de mener de front.
D'accord, tout à fait. Est-ce que vous souhaitez peut-être un jour vivre uniquement de l'écriture, ou est-ce que cette activité académique, elle est aussi importante pour vous dans le processus de création littéraire ?
Ah, l'enseignement, la lecture et tout ça, c'est vraiment très important, donc je ne compte pas y renoncer. Au contraire, c'est là que je me nourris en quelque sorte de nouvelles choses, de nouvelles lectures, de contacts, d'échanges avec les étudiants. Et c'est un peu ma base. Donc non, je voudrais pas fonctionner autrement. Et surtout qu'en Suisse, c'est tout à fait impensable de vivre de sa plume. Donc j'y ai même pas songé.
Il y a quelques personnes à votre connaissance qui vivent de leur plume en Suisse, ou?
C'est extrêmement rare à ma connaissance. Ou en Suisse alémanique, oui, un certain nombre d'auteurs, parce que la vie littéraire est beaucoup plus importante qu'ici. Enfin, simplement, il y a un public plus large. Et puis, une ouverture sur l'Allemagne qui est plus nette aussi. Donc, il y a des auteurs, un certain nombre d'auteurs qui vivent de leur plume assez bien en Suisse alémanique. Mais en Suisse romande, non, on ne peut vraiment pas comparer.
Il manque des soutiens à quel niveau, peut-être ?
Je ne sais pas si c'est des soutiens, c'est plutôt la taille du public qui fait ça. Hein. En Suisse romande, l'espérance de vente d'un ouvrage est assez modeste dans la mesure où la Suisse romande est de petite taille et où l'ouverture vers la France est assez difficile. Donc, comme une bonne partie des livres publiés en Suisse romande ne passent pas vraiment la frontière, en tout cas pas décisivement, on est limité à un public assez mince. Donc, je crois que pour cette raison, principalement, on ne peut pas tellement compter là-dessus pour vivre.
D'accord, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre milieu social, d'où vous venez finalement ? Est-ce que vous pouvez parler de votre famille, de votre enfance ?
Oui, en deux mots. Hein. C'est vrai que comme j'écris des textes qui ont souvent été des textes autobiographiques ou des récits de mémoire familiale, c'est des choses qui ont été thématisées dans les livres, mais peut-être pour le dire en deux mots, voilà, moi je viens du Bas-Valais, d'un petit village qui s'appelle Verneilla au coude du Rhône. Ma famille, mon père était mécanicien et réparateur de machines pour de la menuiserie. Ma mère était mère au foyer. Elle était elle-même fille d'un petit paysan du village, donc elle avait une formation assez limitée, à pas vraiment cette formation professionnelle. Très rapidement, elle a eu le destin de très fréquent dans sa génération de mère au foyer. Puis mon père a subvenu aux besoins du ménage. On était, c'est une grande famille parce qu'on était 5 enfants.
D'accord.
Et donc moi j'ai eu une enfance vraiment villageoise, très très proche du monde rural, de par ma famille maternelle. Et puis un peu plus du côté paternel, du monde ouvrier, parce que mon grand-père était ouvrier à l'usine CFF. Et il était syndicaliste, donc on a aussi toute une tradition syndicaliste dans la famille. Et mon grand-père et mon père ont été députés, grands conseils, conseillers communaux. Enfin voilà, ils ont fait des petites carrières politiques dans la région et avec une forte inscription dans le mouvement ouvrier. Voilà.
D'accord. Est-ce que c'était des lecteurs ?
Alors, c'est pas mal parce que quand même, dans le mouvement ouvrier, il y a une tradition de la bibliothèque, hein, du cercle social, de la discussion, de l'information. Mon grand-père avait constitué une sorte de petite bibliothèque qui était d'ailleurs une bibliothèque de prêt pour les ouvriers du village. Ça se faisait beaucoup dans les années 30, hein, les cercles d'études, comme il les appelait. Les ouvriers se procuraient des livres parce qu'ils avaient conscience que il fallait en quelque sorte avoir des informations, connaître un peu mieux le monde et ses structures pour pouvoir débattre et se battre aussi. Donc oui, il y a cette tradition de la bibliothèque. Mon père, un peu moins, parce que mon père était moins intellectuel, mais quand même, on a toujours eu des livres, et sans avoir un accès privilégié à la grande culture, on avait constamment, en tout cas, on était poussé, en tout cas, à s'intéresser à ce qu'il y avait dans les livres, à s'informer. Il y avait toujours beaucoup de journaux. Mon grand-père avait toujours beaucoup de journaux, des journaux critiques, Le Canard Enchaîné, des choses comme ça, ou des journaux de la presse socialiste. Donc oui, quand même, je baignais là-dedans. Oui.
Absolument, absolument. Alors, on va parler de votre livre, donc le dernier, Au Val des Loups. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots avant qu'on entre dans le vif du sujet ?
Oui, c'est un roman. Je l'ai appelé un vrai roman, un petit peu de manière un petit peu dérisoire, parce que c'est un ouvrage qui... C'est un roman, mais qui est fondé sur un fait divers tout à fait réel. Donc là, il y a une tradition littéraire du roman établi à partir d'un fait divers. C'est très ancien. Donc là, j'ai simplement repris une tradition. Je me suis documenté sur ce fait divers. C'est l'agression sauvage dont a été victime un secrétaire régional du VVF en Valais dans les années 90, en 1991. Et la polémique qui a suivi autour de cette agression, qui n'a pas été dont le coupable n'a pas été trouvé, et autour de cette scène assez symbolique de l'irruption de la violence, j'essaie de réfléchir un petit peu à ce que ça signifie le militantisme dans une région comme le Valais, le rapport conflictuel entre des milieux d'intérêt très différents, et puis cette question qui est au fond du livre des raisons pour lesquelles la violence surgit.
Alors, un vrai roman, effectivement, il y a la partie roman et puis la partie vraie. Et vous intervenez dans ce roman, vous mettez en scène en quelque sorte. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça ? Est-ce que l'idée de parler de vous-même, c'est quelque chose qui vous... disons, est-ce que vous êtes à l'aise avec ça ?
Oui, tout à fait, parce que ça correspond, disons, au travail que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que j'assume de parler de moi, mais pas au sens du moi haïssable de Pascal, c'est-à-dire de ce moi strictement narcissique qui n'aurait à parler que de ses petits détails, ses petits problèmes. J'essaye de construire un jeu qui énonce le texte, qui est un jeu beaucoup plus général, c'est-à-dire le témoignage d'une génération, d'un certain milieu social, la vision à travers ce jeu d'une perspective sur le monde. Et je crois qu'il ne faut pas se mentir, on a un point de vue subjectif sur le monde, on peut le cacher aux autres en feignant l'objectivité dans le récit, mais moi je n'y crois pas, je pense qu'il vaut mieux qu'il est plus honnête de dire d'où on parle, d'expliquer d'où vient la voix qui parle et qu'on puisse ainsi voir à la fois ses limites et ses perspectives. Et donc c'est un jeu que j'essaye de rendre le moins... le moins narcissique possible et le plus sociologique. C'est une sorte de jeu de méthode, hein. C'est une énonciation à la première personne qui permet de faire voir, qui devrait faire voir sociologiquement un certain nombre de phénomènes. Voilà.
On sent beaucoup de doutes, hein, chez ce jeu précisément, la question de la légitimité finalement de reprendre cette histoire. D'ailleurs, vous le dites, est-ce à moi de reprendre cette histoire ? Est-ce que vous avez été mal à l'aise est-ce que le sujet était trop difficile ? D'où viennent ces doutes finalement ?
Oui, c'est vrai que le texte mentionne vraiment, enfin le narrateur se demande à chaque instant s'il a raison de faire ce qu'il fait. Il y a une auto-correction constamment, il y a une sorte de doute. Bon, pour moi, c'est lié à un doute réel que j'avais en écrivant, hein, mais que j'ai après un petit peu mis en scène dans l'écriture pour rythmer le texte. Mais je voulais faire entendre cette voix de l'hésitation, parce que c'est vrai que c'est une affaire importante, c'est un cas assez tragique. J'ai un lien assez indirect avec cette affaire. Bon, c'est un... La personne à qui c'est arrivé était un de mes amis, alors voilà, j'étais un témoin lointain en quelque sorte. Ça m'a touché évidemment, mais ça m'a pas touché directement dans ma chair, donc je me disais, est-ce bien à moi de faire ce travail ? Puis en même temps, j'avais la conviction, alors là c'est par rapport à cet ami et par rapport à l'affaire en question, que on ne pouvait pas laisser le silence gagner, puisque comme je l'ai dit, cette affaire elle n'a pas été résolue en justice. Donc un non-lieu a été prononcé après 2 ans d'enquête. Et au
C'est
fond,
ça.
on ne sait pas qui l'a fait. La justice ne s'est pas donné les moyens ou n'a pas abouti à au moyen d'obtenir cette réponse. Et évidemment, pour la personne qui a été agressée, il y a une sorte de manque de justice, hein. Il y a une lacune, là, effectivement, qui ne lui permet certainement pas de réparer aussi ses plaies, quoi, de réparer ses blessures. Et de même pour ses amis, ses proches ou pour les gens qui ont partagé ses idéaux politiques, par exemple. C'est clair que ça reste comme une blessure ouverte. Donc, à un moment donné, je me suis dit, si l'écriture peut quelque chose, c'est bien ça. C'est-à-dire, à un moment donné, prendre la parole, ne pas laisser le silence s'installer et proposer une parole alternative à la justice qui n'a pas pu aboutir ou aux rumeurs qui ont couru à l'époque sur le personnage, sur les raisons de l'affaire, sur les personnes qui auraient pu commanditer, etc. Donc là, au fond, l'écriture, ça devient une sorte de parole tierce là, hein, qui intervient et qui joue son jeu. Alors moi, je prétends pas dire la vérité dans ce livre. D'ailleurs, vous l'avez bien vu, ce livre ne dévoile rien de nouveau. On n'apprend pas qui est le coupable, etc. Donc c'est plutôt une manière de prendre la parole pour raconter cette histoire du point de vue, je dirais, du point de vue des vaincus, pour aller vite, c'est-à-dire qu'elle soit pas toujours racontée du point de vue des vainqueurs, qu'elle soit racontée du point de vue des minoritaires, ici en l'occurrence ces militants écologistes qui ont été quand même vraiment maltraités à l'époque en Valais, qui étaient extrêmement et qui sont toujours extrêmement minoritaires, dont une partie de la population se moquait tout à fait ouvertement, etc. Donc moi, je voulais leur donner une parole, et une parole qui reste d'une certaine manière à travers l'écrit.
C'est effectivement, hein, c'est très intéressant. C'est absolument pas une contre-enquête. Vous n'apportez que peu de faits. C'est plutôt, moi, je l'ai vraiment lu comme une réflexion d'abord sur la violence peut-être, mais surtout comme le portrait d'une époque aussi, parce qu'on a l'impression d'une espèce de dédoublement de la personnalité de ce jeu. Il y a le Jérôme Maizot jeune, révolté, peut-être idéaliste, et puis avec un dispositif de parenthèse, vous intervenez une autre voix, en fait, qui est peut-être en quelque sorte la voix de la raison ou la voix d'une certaine maturité, d'une désillusion. Cette voix qui est aussi la vôtre et qui vient en quelque sorte contredire la première voix, lui en quelque sorte doucher les espoirs. Comment vous avez fait ça?
Oui, tout à fait. Vous avez bien identifié le dispositif. L'idée narrative, c'était pas simplement de raconter un récit à la première personne, mais c'était de m'adresser à quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est simplement celui que j'étais quand j'étais jeune, quand j'étais à l'époque de ces événements, et d'essayer de voir comment aujourd'hui je perçois le jeune homme que j'ai été. Donc c'est une sorte de dialogue entre un je et un tu, mais qui sont la même personne à deux moments du temps. C'est comme une lettre qu'on s'écrirait à soi-même en s'adressant à celui qu'on était. Et je crois que narrativement, ça fonctionne parce qu'on peut comprendre cette adresse, parce que souvent, on se parle à soi-même comme ça, hein, on fait des bilans de sa propre vie. Donc, il y a quelque chose, je pense, d'assez naturel de se parler à soi-même en révisant un certain nombre de choses auxquelles on a cru. Et donc, après, oui, la question, c'est de savoir quel rapport on a avec soi quand on parle au passé. Alors, moi, j'ai le sentiment que là, dans la tradition littéraire, il y a un peu deux grandes options, soit on ironise ce qu'on a fait autrefois en montrant combien on était candide, naïf, etc.
Soit, ce que vous faites un petit peu, d'ailleurs.
Ce que je fais un petit peu, tout à fait. Soit on tombe dans la nostalgie qui est, au fond, le fait que c'était mieux avant et que le présent est moins intéressant que ce passé qui était très riche. Alors, il y a ces deux extrêmes, en quelque sorte, hein, l'ironie et la nostalgie. J'ai essayé en quelque sorte de les cumuler plutôt que de les distinguer. Donc dans le style que j'ai essayé de créer là, c'est un style qui est à la fois mélancolique et ironique. Il y a un sentiment de mélancolie, il y a un passé qui est passé, il y a des choses qui sont perdues, il y a des regrets, il y a des choses comme ça. Il y a la jeunesse qui s'est enfuie, par exemple. Et puis d'un autre côté, il y a une sorte d'ironie sur la naïveté avec laquelle on croyait pouvoir changer le monde. Et c'est vrai que ça signifie pas pour moi, cette ironie, que j'aurais changé d'idée ou que j'aurais renié mes idéaux. Alors vraiment pas. Alors ça, je l'ai vraiment dit plusieurs fois. Je partage absolument tous les idéaux que j'avais à l'époque. Mais par contre, je crois que si on veut les réaliser, il faudra utiliser d'autres moyens, être un peu plus informé, être un peu moins naïf sur la réalité du rapport de force qui se joue entre ces militants et leurs adversaires, et être certainement plus stratège, mieux informé, moins naïf, etc. Donc, c'est plutôt une manière de regarder avec une tendresse un peu cruelle, bien sûr, mais de regarder ces croyances qu'on avait à l'époque. Nous, voilà, on se réunissait, on écrivait des petits textes, on voulait, voilà, c'était vraiment peace and love, hein, on voulait l'amour universel et puis la beauté de la nature, ce qui a pour moi un idéal tout à fait valable encore aujourd'hui, et peut-être même plus que auparavant vu l'état de l'environnement. Mais voilà, je crois qu'on savait pas très bien comment s'y prendre et on n'avait pas vu quels étaient les réels intérêts économiques qui étaient en face de nous. Je crois que maintenant, la violence du monde économique, des exigences de profit, de rendement, de croissance, etc., tout ce cinéma qu'on nous serine autour de la croissance perpétuelle, c'est vraiment une violence qui nous est faite, hein, et elle nous est faite pas seulement au quotidien, dans les relations de travail, mais elle est faite sur notre imaginaire. Moi, je pense qu'il y a une sorte de colonisation de l'imaginaire par la consommation, par le marché, par les exigences d'image qui est constante, qui est d'une extrême violence, mais qu'on peut pas, enfin, qu'on peut ressentir comme violente, mais qui est en même temps invisible à quelque part, parce qu'elle est perçue comme très naturelle, elle se fait comme ça dans les médias, tous les jours, un petit peu, dans les affiches, et on ressent tous un petit peu ça. Il y a des gens qui essayent d'y échapper, hein. Il y a des mouvements de décroissance, il y a toutes sortes de moyens d'essayer d'échapper à ça, mais en même temps, on n'a jamais affronté vraiment de face le fait que c'est une extrême violence qui nous est faite et qui reste en quelque sorte invisibilisée. Voilà. Par exemple, dans le roman, il y a des passages sur cette question de la consommation, le fait que les personnages essaient d'échapper au monde du marché en se réunissant dans des petits groupes qui sont, alors à l'époque, c'était des utopies agraires, on pourrait dire, c'est-à-dire des petites communautés vaguement agricoles qui essayaient de faire un peu d'autarcie pour ne pas dépendre constamment des supermarchés, ou etc., qui s'habillaient autrement, qui renonçaient à l'usage de la voiture, etc. Et alors, ces mouvements, ils existent toujours, hein, Dieu merci. Il y en a qui se sont même développés, mais maintenant ils sont, par rapport à la puissance actuelle, en tout cas des assignations à la consommation et à la croissance, ils semblent, c'est un peu David contre Goliath, quoi. Voilà.
Tout à fait. Alors, on sent un ton effectivement assez résigné, voire peut-être fataliste. D'une certaine manière, les faits semblent vous donner raison. Je pense au mouvement altermondialiste, par exemple, qui était quand même fort dans les années 2000, qui a pratiquement disparu. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression d'une absence de perspective. Qu'est-ce qui a changé entre cette période et aujourd'hui? Et est-ce que les choses ont changé d'abord?
Alors c'est difficile à dire parce que c'est vrai qu'on a peu de recul et puis moi je suis pris dans ce mouvement comme tout le monde, hein. Mais le sentiment que j'ai, c'est que l'emprise du monde marchand et du rythme de la croissance et des exigences du monde du travail s'est accrue encore pendant ces 20-25 dernières années et que la possibilité d'échapper, d'avoir des alternatives à ce mode de vie est de plus en plus mise en difficulté. Pour moi, franchement, il y a une forme de totalitarisme soft qu'on pourrait décrire sur le mode de vie qu'on a aujourd'hui. Mais il est soft, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un régime autoritaire, en tout cas pas en apparence, mais il y a une assignation généralisée à un certain type de comportement qui, pour moi, explique aussi le fait que même les mouvements dits subversifs ou révolutionnaires, comme ils sont obligés de penser dans les termes de ce cosmos marchand, ils sont complètement prisonniers d'un univers qu'ils n'ont pas énoncé eux-mêmes, hein. Typiquement, je pense que les socialistes, les sociodémocrates sont complètement prisonniers du vocabulaire marchand, du vocabulaire néolibéral. Même quand bien même ils désireraient lutter contre ce monde, ils en emploient les mêmes termes. C'est une question fondamentale, une question linguistique, c'est-à-dire que le sens des mots a été transformé, a été changé. Il y a un magnifique ouvrage de Victor Klemperer qui était un opposant au régime nazi et qui, après la guerre, a écrit un ouvrage sur la langue des nazis et qui a montré comment, petit à petit, les nazis ont réussi à transformer le sens des mots, à inventer un vocabulaire, par exemple, d'utiliser la racine folk, peuple, hein, folk, folkisch, etc., dans toutes sortes de contextes pour modifier la perception du monde dans un sens nationaliste. Hein. Il y avait des choses qui étaient völkisch, donc qui étaient bonnes parce qu'elles étaient du peuple allemand, et puis des autres, des choses qui étaient mauvaises parce qu'elles n'étaient pas völkisch. Et la lente transformation des perceptions à travers le vocabulaire a donné au mouvement nazi une puissance sémantique, une sorte de cohérence culturelle très forte. Et en moins de 10 ans, ils ont réussi à transformer l'univers sémantique de l'Allemagne. Alors, je ne comparerai pas directement le néolibéralisme au nazisme, ce serait un peu rapide, mais je pense qu'il y a ces phénomènes de sémantique, de transformation des mots à travers les usages des mots du marché, qui sont tout à fait les mêmes. Et là, les écrivains ont quelque chose à faire, parce que les écrivains, c'est des gens qui travaillent avec le langage, qui ne peuvent pas se laisser parler par le langage, mais qui ont besoin de le parler, donc de se l'approprier, de le transformer, de le purifier au besoin, j'aime pas trop ce mot-là, mais de le nettoyer parfois, de le brusquer pour que le langage dise vraiment ce que nous avons à dire et pas ce que le monde voudrait qu'on dise.
Les écrivains ont des choses à faire, ça nous amène à la question de la littérature engagée. Est-ce que vous acceptez ce concept, ce qualificatif pour votre travail, en particulier ce dernier livre ?
Oui, d'une certaine manière, c'est pas une étiquette qui me dérange. Je sais que j'ai beaucoup de collègues auteurs qui détestent ce nom, et si on leur dit vous êtes un auteur engagé, ils vont tout de suite dire non, mais pas du tout, etc. Je crois simplement que la notion d'écrivain engagé a mauvaise presse, parce que elle a eu ses heures de gloire comme ça après la guerre, avec Sartre, avec les écrivains engagés, les écrivains communistes. Maintenant, certainement, avec justement le néolibéralisme, elle a reflué. On essaie de faire des écrivains des éléments de divertissement ou de loisirs. Ouais, là, il y a un glissement vers la marchandisation et le loisir généralisé. Moi, personnellement, j'assume tout à fait le fait que ce que je fais est explicitement une prise de position dans le monde, une manière de montrer le monde, tout à fait subjective et tout à fait politique, et que c'est ma voix et qu'elle est qu'on peut la contredire, évidemment, hein, qu'elle ne prétend pas à la vérité, mais qu'elle est une affirmation et que les autres peuvent se situer par rapport à ça dans un débat démocratique. Donc oui, c'est un geste, pour moi, fondamentalement politique. Et si ce geste politique n'était pas... si je ne pouvais pas le faire, ou si je n'avais pas l'occasion ou les moyens de le faire, je pense que j'écrirais pas, hein, tout simplement, parce que j'écris pas pour moi... j'aime bien écrire et tout ça, mais j'écris pas pour moi seul, j'écris pour la communication avec d'autres, pour que ça circule, pour que ça discute, et voilà, surtout. Ouais.
Alors, les écrivains engagés, est-ce qu'ils existent toujours, ou est-ce qu'ils sont moins lus, est-ce qu'ils ont un côté un peu sulfureux? Comme ça, on a l'impression que ces grandes figures appartiennent quand même au passé et qu'on cherche aujourd'hui des statures comme ça d'écrivains engagés. C'est quelque chose qui n'existe plus, qui n'est plus possible aujourd'hui?
Non, je pense que c'est possible, mais que... Je connais pas les contraintes qui pèsent sur ces écrivains dans d'autres pays, hein, mais d'abord en Suisse, il y a une chose, c'est qu'on n'est pas une nation littéraire, c'est-à-dire que on n'est pas une nation dans laquelle la littérature est un pilier de notre identité culturelle. La littérature est une sorte de vague divertissement. Alors on a une littérature, on est fiers de certains de nos écrivains. D'ailleurs, il y a toute une tradition de littérature engagée en Suisse alémanique, hein, qui a été très célèbre avec Frisch, avec Adolf Musch, etc. Qui existe encore, hein, il y a une nouvelle génération aussi, mais je dirais qu'on n'est pas un pays, on n'est pas une nation littéraire comme la France. En France, la littérature est un des piliers de la culture, un des piliers de l'État aussi. Il y a des ministres qui étaient des écrivains, qui sont des écrivains, qui publient, etc. Ils ont vraiment une tradition très forte. Alors, on l'a pas chez nous, et puis je crois que ça traduit fortement le fait que la culture en Suisse est vraiment conçue comme quelque chose de... qui n'est pas au premier plan des préoccupations du pays. Hein, je crois qu'on est vraiment un pays de marchands, de commerçants, d'industriels, un pays de spéculation, un pays de... voilà. Et la culture n'est pas fortement présente dans notre identité. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Donc, les écrivains, au fond, peuvent écrire ce qu'ils veulent, parce qu'ils ont la liberté d'écriture, hein, mais au fond, ça n'a pas beaucoup d'impact, et je crois pas réellement à l'impact. Donc certainement que ça a découragé ou que ça rend invisible ce genre de contexte un certain nombre d'auteurs qui publient des textes engagés. Alors on en a, hein, il y en a beaucoup, je pense au Tessin, un romancier, un poète comme Alberto Nessi, qui est un écrivain extrêmement engagé, jusque dans sa poésie, jusque voilà, et dans ses actes quotidiens, dans son appartenance à tel ou tel syndicat, dans les lectures qu'il fait dans des situations publiques. Alors moi, par exemple, je me sens proche d'un écrivain comme ça, et j'ai des activités qui peuvent être proches des siennes, on se connaît, etc. Donc, jusqu'il y a quelques années, il y avait un groupe d'écrivains, le groupe Dolten, qui était un groupe d'écrivains engagés. Une bonne partie sont encore en activité, même si le groupe n'existe plus. C'est plutôt la visibilité de ce type de littérature qui est un peu perdue, je pense, dans le monde médiatique, parce qu'on privilégie certainement des formes différentes. Voilà.
D'accord. Alors, un écrivain engagé qui est très présent dans le livre, c'est Chapa, votre compatriote, si je puis dire. Est-ce que c'est une forme d'hommage que vous lui rendez ?
Alors, c'est vrai que j'ai pas forcément beaucoup pensé j'ai pas pensé clairement en écrivant, mais c'est vrai que ce livre est complètement hanté par la figure de Maurice Chapa. Et vraiment, chaque deux pages, il apparaît, chaque deux, trois pages. Et effectivement, donc, oui, certainement que c'est un hommage parce qu'il est décédé il y a quelques années. Je l'ai beaucoup apprécié, je l'ai beaucoup lu, je l'ai beaucoup fréquenté. Et en quelque sorte, il traverse le texte comme ça pour lui donner une sorte d'horizon. Plutôt d'arrière-fond historique, parce que Chapa, pour les luttes écologiques, en tout cas, a été très important en Valais. Depuis la fin des années 40, il a mené toutes sortes de combats très, très concrets dans le Bois de Finge et dans d'autres zones. Et à chaque fois, il était là.
En avant-gardiste.
Voilà, en avant-gardiste. Alors, c'était pas un écologiste, peut-être au sens actuel du terme. C'était plutôt la question de la protection des paysages, protection du patrimoine, c'était proche de ce que le Heimatschutz faisait à l'époque. Alors il y avait une sensibilité écologique certainement très forte, mais ancrée sur d'autres manières de voir les choses. Mais enfin voilà, reste que tout le travail qu'il a fait en militant, mais aussi dans ses textes, en consacrant des textes au paysage, au lieu, au monde naturel, a été très fort pour moi, et je suis complètement imprégné, je pense, de cette littérature, sans pour autant partager les visions ou les opinions de Maurice Chapa. On avait beaucoup, beaucoup de discussions ensemble sur le fait qu'on était de générations tout à fait différentes, puis qu'on n'avait pas le même horizon politique. Maurice Chapa était un catholique tout à fait fervent, même assez traditionnel à la fin de sa vie. Il était attaché à un monde rural. C'était pas du tout... Il a eu dans les années 60 des moments d'émancipation politique. Il a été fasciné par mai 68. Il a découvert le bouddhisme. Il a eu sa période, je dirais, d'ouverture, enfin, de mon point de vue. Mais en même temps, il venait pas de ce terreau-là. Donc, on n'avait pas les horizons sociaux du même type. Voilà.
Alors, il y a dans le livre des très belles lignes de Maurice Chapa et de vous sur le rapport à la nature. Il y a à la fois ce côté sauvage, dur, aride, avec la figure du loup, notamment. Et puis, chez vous, un côté parfois beaucoup plus bucolique, peut-être un petit peu idéalisé, notamment cette évocation de ces marronniers qui vont être rasés dans la cour d'école du village de votre enfance. Comment vous positionnez par rapport à la nature?
Alors bon, moi justement, j'ai pas été véritablement un militant écologiste. J'ai participé à un petit groupe qui s'appelait Mandarine, et bon là, dans le texte, je l'évoque rapidement, qui défendait des causes environnementales, mais aussi des causes antimilitaristes, par exemple. Mais on n'était pas, au fond, pas très politisés. Et puis on avait toutes sortes d'opinions très, au fond, assez divergentes, avec des sensibilités. Mais par exemple, moi, j'ai la sensibilité écologiste, pour moi, c'est arrivé très très tard. C'était pas du tout dans mon milieu familial. C'est arrivé plutôt par des amis plus tard. Dans le livre, celui que j'appelle le barbu taciturne, qui a été un ami proche et qui a rendu vraiment sensible à ces questions. Et donc, c'est vrai que les descriptions que je fais de la nature dans le roman, c'est plutôt la nature conçue comme une sorte d'espace protégé des soucis, des violences. C'est un espace dans lequel les hommes ne comptent plus. D'ailleurs, dans le texte, le narrateur dit à un moment donné que voilà, c'est au-dessus des forêts, là-haut, que ça commence, parce qu'il n'y a plus de, d'humains pour imposer leur loi.
Arbres, voilà,
au-dessus des arbres, il n'y a plus d'humains qui imposent leur loi. Donc c'est vrai que c'est une nature qui peut être un peu idéalisée, parce que justement elle est présentée là comme le contre-pied à la rudesse du monde de l'exploitation, du monde du profit, etc.
Absolument. La nature qui est en débat souvent de manière très chaude en Valais, avec notamment la question de l'Alex Weber. Avant de se quitter, peut-être une dernière question. Est-ce que les mentalités évoluent pas aussi en Valais sur cette question-là, la question du respect de la nature, pas forcément pour les bonnes raisons, mais pour des raisons touristiques, parce que simplement les gens commencent à se rendre compte qu'effectivement le développement économique du Valais passant quand même largement par le tourisme, il s'agit quand même de préserver ces paysages, de préserver toute cette réputation de nature plus ou moins intacte en Valais. Est-ce que ça, c'est quand même pas un puissant moteur pour une protection de la nature en Valais?
Oui, certainement que depuis les années 90, il y a eu quand même une prise de conscience environnementale quand même, hein, certainement, et peut-être aussi effectivement par les milieux qui ont à mettre en valeur cette nature et à la présenter comme un argument touristique, on peut les comprendre, hein, évidemment.
Oui.
Alors est-ce que vraiment ça a conduit à de véritables changements d'attitude par rapport à... Je pense pas que du point de vue strictement écologique, c'est-à-dire d'une compréhension complète de l'environnement, des biotopes, etc. Je crois pas que là il y ait eu un énorme progrès pour le moment, en tout cas pas dans l'ensemble de la population. Mais je pense quand même qu'un certain nombre de normes environnementales ou d'aménagement du territoire ont lentement été modifiées, renforcées, sous la pression certainement aussi de la Confédération et des habitudes des cantons voisins. Hein. Donc je pense pas là que c'est simplement la vertu propre aux promoteurs immobiliers. Je crois qu'ils se sont simplement habitués à de nouvelles contraintes. Je pense que l'Alex Weber en est un exemple. Mais par contre, dans la population, dans la jeunesse notamment, la sensibilité à des questions environnementales me semble un peu plus importante. Hein. Il y a toute une génération aujourd'hui entre 20 et 30 ans qui trie ses déchets, qui comprend très bien de quoi il s'agit quand on parle d'économie d'énergie. Et je pense que le fait, par exemple, de se moquer des écologistes est quelque chose qui a sans doute faibli.
Oui, tout à fait. Est-ce que c'est pas aussi que les mentalités dans ce ovale évoluent quand même le portrait que vous en dressez est quand même relativement dur, avec parfois même des allusions à des tendances peut-être un petit peu fascistes. Vous parlez du Valais des années 90. Est-ce que ce Valais, c'est encore le Valais d'aujourd'hui? Je prends un seul exemple, la Gay Pride par exemple qui sera organisée cet été, semble-t-il. Était mieux accepté. En tout cas, on est quand même très loin des réactions très violentes qui avaient eu lieu lors de la première édition. On a aussi l'impression un petit peu que les horizons s'élargissent, que les mentalités évoluent. Quel est votre sentiment par rapport à ça?
Oui, alors vous avez tout à fait raison. Je pense que les mentalités évoluent. Il y a eu depuis l'Internet une médiatisation accrue, une ouverture vers d'autres types d'horizons. Les gens voyagent plus. Le portrait que je fais des années 90, c'est le portrait au fond de ce que moi j'ai vu dans mon adolescence, hein, et ça a certainement beaucoup changé. Les gens sont très informés, il y a des blogs. Autrefois, je cite dans le roman le quotidien unique, hein, il y avait une presse très monopolistique. Maintenant, il y a des blogs. Alors, il n'y a pas plus de journaux peut-être, mais plus lieux où on peut s'informer ou échanger l'information. Il y a les réseaux sociaux. Donc, c'est vrai que j'ai bon espoir que, de ce point de vue-là, la mentalité, comme on dit, se transforme dans la prochaine génération. Mmh. Ouais.
Le fait que la jeunesse parte étudier aussi dans les universités, notamment à Genève ou à Lausanne, c'est aussi quelque chose qui participe à ça, à cette ouverture.
Oui, je pense, avec toujours le problème qui est corrélatif, c'est la fuite des cerveaux, en quelque sorte. Est-ce que ces gens qui vont étudier ailleurs reviennent? Alors, il y a une partie qui revient, je ne connais pas les statistiques, une partie qui ne reviennent pas, mais qui gardent quand même des liens. Certainement, mais au fond, il y a beaucoup de Valaisans à l'extérieur. Hein, et une partie des Valaisans qui ont des formations complètes, intéressantes, parfois sont ailleurs ou travaillent ailleurs et sentent aussi le décalage, parce que je le partage avec beaucoup d'amis qui sont à l'extérieur comme moi, sentent aussi ce décalage entre le monde dans lequel ils vivent maintenant, des études qu'ils ont faites, et un certain nombre de manières de faire, de voir les choses qui persistent dans leur lieu d'origine. Alors ceci dit, c'est une tension culturelle comme d'autres, hein, mais on la sent fort maintenant, oui.
D'accord, très bien. Bah, sur ces quelques paroles, Jérôme Mézeau, je vous remercie infiniment de nous avoir accordé cet entretien. J'invite les personnes qui nous écoutent à lire votre livre, qui est vraiment très intéressant d'un point de vue sociologique également, avec aussi des manières de raconter justement des formes qui sont très intéressantes. Merci, et puis au plaisir de vous lire.
Merci à vous. Bonne soirée. Merci.
Merci. Bonne soirée. Au revoir.
C'était le sixième épisode de Lettres romandes, un podcast proposé par Julien Sansonnance. Merci à Jérôme Mézeau. Vous pouvez vous abonner à notre podcast sur iTunes ou nous retrouver sur lettresromandes au pluriel.ch.